Donc, bonjour à tout le monde. Et il faut que je dise une très bonne année. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette année et que nous, quand même, prenons comme sujet de prière que le Seigneur mette fin à cette épidémie, cette pandémie. Aussi, que le Seigneur fasse venir des ouvriers pour la France, des ouvriers chrétiens pour la France. Je vais parler aujourd'hui de le sujet chrétien de foi baptiste. Chrétien de foi baptiste. Donc c'est pour commencer la nouvelle année, je voulais revoir, pas vraiment ce que nous croyons, mais quel genre d'église nous sommes. Nous sommes quoi comme église, ok? Donc globalement, on peut dire nous sommes des chrétiens nouveau testamentaires. Donc, les chrétiens bibliques, les chrétiens baptistes. Donc, l'association, notre titre, Centre biblique de Brive et sa région, une église biblique et baptiste. Donc, je vais commencer en parlant de moi-même. Okay? Donc, je me suis converti à Jésus quand j'avais 12 ans. Et... depuis, à partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps à lire le Nouveau Testament. Et en lisant le Nouveau Testament, j'ai appris que tous les chrétiens se faisaient baptiser. Alors, je suis allé voir le pasteur, j'ai demandé, ben voilà, tous les chrétiens sont baptisés, je peux me faire baptiser. Et bien sûr, il a dit que oui. Donc, par la suite, il faut dire aussi que... j'étais pas le meilleur, j'avais pas le meilleur témoignage comme chrétien, malheureusement. Alors, je suis allé à l'université, j'ai poursuivi un parcours d'histoire, en principe, en particulier l'histoire européenne. Et dans mes cours dans l'université laïque, j'ai appris qu'il y avait à travers l'histoire ce groupe de chrétiens qu'on appelait de foi baptiste. Okay? Ce n'étaient pas tous de même étiquette, mais ils avaient tous une foi semblable. C'était des chrétiens qui s'efforçaient de vivre selon le Nouveau Testament. Et malheureusement, ça se trouve que souvent ils étaient persécutés par les catholiques, par les protestants, etc. Et depuis ce moment-là, je me suis dit que je fais partie de ce groupe-là. Je fais partie de ceux qui se considèrent de foi baptiste. Et donc, je n'ai pas honte de partager ni leur nom, ni leur histoire. Donc, je voudrais reviser un petit peu donc, l'histoire de l'Église dans le Nouveau Testament. Donc, vous n'avez qu'à lire dans les Évangiles et dans les Actes pour voir que le christianisme d'origine fondé par Jésus et les apôtres, était de type baptiste. Je ne dis pas étiquette baptiste, attention, ce n'est pas la même chose. Les érudits de toutes les branches du christianisme sont d'accord sur ce point. Le christianisme dans la Bible est une fraternité de croyants, libre de toute autorité, sauf bien sûr Jésus et les Écritures, évangélisant dans le monde et baptisant les nouveaux convertis par la forme biblique du baptême, c'est-à-dire l'immersion. Ce christianisme primitif est tellement plus simple que les hiérarchies et les églises d'État qui ont vu le jour plus tard. Le christianisme primitif du Nouveau Testament était de foi baptiste. Les chrétiens cherchaient à comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu et rejeter toute autre prétendue source d'autorité pour la vie chrétienne. Jean a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, dans 1 Jean chapitre 4 et verset 1. Ces églises se constituaient uniquement de personnes nées de nouveau et immergées. Et n'acceptez aucun mélange de non-croyants. Chacune de ces églises était autonome, chacune gérait ses propres affaires, chacune avait sa propre réputation, ses points forts, ses points faibles, ses besoins, etc. Aucune de ces églises n'était parfaite. Pas plus que nous, n'est-ce pas? Selon les errances de chaque église, les épîtres les rappelaient à l'ordre apostolique. Ces chrétiens du Nouveau Testament se considéraient frères et sœurs. Il n'y avait pas de distinction de classe, ni de clergé, ni de privilégié. Chaque chrétien avait ses devoirs envers Dieu sans intermédiaire humain ni angélique. Les chrétiens du Nouveau Testament prêchaient l'Évangile et invitaient les non-croyants à se convertir à Jésus-Christ sans jamais les contraindre. Donc, bien que Dieu commande à toute personne à se repentir, le salut est pour quiconque le veut. De même, les évangiles et les épîtres exhortent les croyants à pratiquer la vie chrétienne sans jamais nous contraindre à la faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous agissons par amour envers lui. C'est pour cela que les exhortations s'adressent à la conscience et à la bonne volonté. Nous lisons dans les Actes que les convertis du Nouveau Testament manifestaient leur toute nouvelle foi en Jésus-Christ par l'acte d'immersion dans l'eau, c'est-à-dire le baptême. Ceux qui ont déclaré leur foi en Jésus-Christ par l'immersion et qui cherchaient à vivre la vie chrétienne communiaient autour du repas du Seigneur que nous allons partager tout à l'heure. L'immersion et le repas du Seigneur sont les seules ordonnances que nous voyons pratiquées par les chrétiens dans la Bible. Les chrétiens du Nouveau Testament se considéraient voyageurs sur la terre. Ils étaient convertis à Jésus-Christ dans l'optique de vivre une nouvelle vie d'après les enseignements de Jésus-Christ. Les chrétiens se séparaient donc de leur péché passé et des pratiques malsaines du monde. Les assemblées étaient elles aussi séparées du monde et indépendantes des autorités civiles et religieuses. Malheureusement, ceci a souvent provoqué l'incompréhension et la persécution. Donc, ce que je viens de décrire, c'est ce que j'appelle la foi baptiste. Dans le Nouveau Testament, nous avons dépeint une foi, une pratique, et c'est cela, ce qu'on dit, de foi baptiste ou la foi baptiste. Donc, je voudrais faire quand même un point de, je sais pas, d'expliquer un point, voilà. Donc, la foi baptiste n'est pas la même chose que l'étiquette baptiste. Okay? Donc, d'un côté, dans les commerces, un produit peut avoir une qualité d'excellence sans avoir une étiquette bien connue. Et de l'autre côté, malgré son étiquette, un bon produit peut pourrir. Okay? Donc, en utilisant comme illustration, c'est à travers l'histoire qu'il y a eu de nombreuses bonnes églises, des bons chrétiens, des bonnes églises, qui ne portaient pas du tout l'étiquette baptiste. Comme par exemple les chrétiens du Nouveau Testament ne portaient pas l'étiquette baptiste. Okay? De l'autre côté, il y en a qui portent l'étiquette baptiste, mais cette étiquette n'assure pas que ce soit les chrétiens de la Bible. Okay, donc, il ne faut pas mélanger foi baptiste et étiquette baptiste. C'est deux choses, malheureusement, différentes. Okay? Alors, quelqu'un a créé le sigle B-R-A-P-L-I-S, donc Braplis, ces lettres-là, pour représenter la foi baptiste. Et donc, on va prendre un peu de temps pour étaler qu'est-ce que c'est la foi baptiste. C'est quoi? Et on utilise ce sigle, Braplis, pour le faire. Donc, B, c'est Bible. R, c'est régénération. A, c'est autonomie. P, c'est prêtrise, donc prêtrise de tous les croyants. Liberté, L, c'est liberté, liberté de l'âme. I représente les deux ordonnances, immersion et le repas du Seigneur. Et le S représente séparation. Donc on va voir chaque point au fur et à mesure. B pour Bible. Donc on a 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, où nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est la seule autorité pour la foi et la pratique chrétienne. Elle suffit, elle est adéquate, elle est efficace. Toutes nos doctrines viennent de la Bible. Ceci veut dire que les gens de foi baptiste lisent la Bible. C'est pour connaître la pensée et la volonté de Dieu. Ceci veut dire d'office que nous rejetons obligatoirement toute autre inspiration spirituelle, par exemple les révélations sectaires et charismatiques, etc. Et aussi nous rejetons toute autre prétendue autorité spirituelle. Donc, je vais les dénombrer. Globalement, ce sont donc, principalement, premièrement, les apocryphes, donc ces anciens écrits d'avant Jésus-Christ, qui n'étaient pas inspirés, et qui n'ont jamais fait partie de la littérature biblique chez les Juifs. Donc on appelle ça, nous, chez nous, l'apocryphe. Aussi les écrits chrétiens anciens, mais non inspirés, que l'on appelle les pères de l'Église. Aussi, nous n'acceptons pas les conciles œcuméniques. Donc vous comprenez, il y a d'autres personnes dans le monde chrétien qui considèrent ces littérature-là comme obligatoire des autorités dans leur vie chrétienne et dans leurs églises. Non plus les traditions officielles ou non officielles, et puis le magistère de l'Église. Nous n'acceptons aucun de ces principes ou documents. La foi biblique est tellement plus simple que tout ça. Jésus a d'ailleurs fortement condamné la soumission aux traditions et aux autorités humaines. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au lieu de suivre ces diverses autorités et traditions humaines, eh bien, les gens de foi baptiste se réfère directement et uniquement à la parole de Dieu. En faisant ainsi, il garde l'esprit originel du christianisme. Donc déjà, je vous encourage à prendre un calendrier pour la lecture biblique, mais sinon de lire à travers cette nouvelle année tout le Nouveau Testament. Okay? Donc le B signifie que la Bible est la seule autorité pour la foi chrétienne. Après, c'est le R. R pour régénérer. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et puis Jésus, dans Jean chapitre 3 et verset 3, Jean 3, 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc ce mot « voir », ça veut dire « voir », ça veut dire « percevoir », ça veut dire aussi « discerner ». Un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas comprendre ou évaluer ou discerner, participer dans la vie spirituelle. Il faut naître de nouveau. Donc l'Église, notre Église, toute Église biblique, est le rassemblement ou le regroupement des personnes nées de nouveau. Jésus a créé les Églises locales pour répondre aux besoins des croyants. C'est pour ça qu'il nous a créé les regroupements que nous, on dit église, église locale. Les églises de foi baptiste, entre guillemets, de foi baptiste, acceptent comme membres uniquement les personnes avec un témoignage de nouvelle naissance. L'église locale est donc la réunion périodique des croyants dispersés dans la société qui s'associent librement et volontairement, et par contrainte. Soyons clairs, nos enfants, autant que nos voisins, iront en enfer si nous, les parents ou les voisins, ne les évangélisent pas. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut croire en Jésus-Christ, mort sur la croix et vainqueur de la mort. Jésus est le sauveur de tous les hommes, le seul chemin qui mène à Dieu. Il est mort pour sauver les pécheurs que nous sommes. Sa résurrection montre qu'il a vaincu la mort. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui met de sa confiance en Jésus-Christ, car celui-ci, Jésus, a porté tous nos péchés. Si vous croyez, vous serez sauvés par sa grâce, puis comme les croyants dans le Nouveau Testament, vous allez vous faire immerger dans l'eau pour témoigner de votre foi afin de déclarer votre conversion à Christ et votre désir de vivre la vie chrétienne. Donc le R représente régénérer. Hein? L'Église se compose des personnes régénérées. La lettre A, c'est pour autonomie. A pour autonomie. Apocalypse chapitre 1 et verset 11. Apocalypse 1, 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Puis au chapitre 3, verset 22, « Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc, on voit bien que Jésus s'est adressé individuellement à chaque église selon leur bon point et le mauvais point. Chaque église était différente. Chaque église a eu un message du Seigneur Jésus. Et puis, dans Romains chapitre 16 et verset 17, nous lisons, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Éloignez-vous d'eux. Donc ça, c'est chaque église est responsable de maintenir leur doctrine, leur pratique, leur discipline. Ce n'est pas à une autre source ou autorité extérieure, mais à chaque église de s'en occuper de sa propre vie. Donc, par autonomie, nous voulons dire que devant Dieu, chaque église est responsable pour sa propre existence. Elle existe par la volonté et le financement de ses participants. Alors la France a bien compris ce principe d'autonomie et a écrit dans la loi sur la laïcité que les membres de l'Église doivent subvenir au financement de leurs propres églises. Ça ne les étonne pas. Sinon, elles n'existent plus. Ainsi, une église locale dont les membres ne souhaitent pas son existence cessera d'exister. Mais, avant de parler des finances, une église autonome doit parler de structure. Le Nouveau Testament exprime la volonté de Dieu sur la question de la structure des églises. Une église biblique se constitue dans un endroit avec des croyants immergés. Ces membres, donc ces personnes immergées, croyants immergés, qui se réunissent, donc ils vont choisir parmi eux des responsables et des aides. Pasteurs, diacres, diaconesses, selon les qualifications bibliques. Donc, on est soumis à ce que enseigne le Nouveau Testament concernant ces positions dans l'Église. Ce corps de croyants reconnaît les autres corps de Christ, les autres croyants, tout en gardant son indépendance et restant disponible pour aider les autres églises quand il y aurait besoin. Quand Jésus a enseigné ses disciples, les apôtres, sur la structure de l'Église, il a strictement interdit toute structure d'autorité ou de puissance. Au lieu de cela, Jésus enseignait la nécessité de la servitude et de l'humilité parmi les membres de l'Église, tout en insistant sur le respect des responsables dans l'Église. Donc, nous lisons dans Matthieu, chapitre 20, Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. Donc, verset 25, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » La rançon de plusieurs. Donc, A signifie autonomie. Après, il y a P. P pour prêtrise de tous les croyants ou sacerdoce de chaque croyant. On va lire dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22, donc verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, en parlant du fait que Christ est mort sur la croix, donc vous vous souvenez quand Christ est mort, la voie du temple est ouverte, etc., pour montrer que, voilà, l'accès était ouvert maintenant par moyen de ces personnes, les prêtres dans le temple, mais l'accès est pour toute personne qui est lavée par le sang de Jésus. Nous avons tous accès à Dieu. Et puis on lit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et le début du verset 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Donc Noël, Dieu devient homme, et après la crucifixion et la résurrection. Jésus est remonté au ciel, donc l'homme, donc la personne de Jésus, mais ressuscité, retourné dans son lieu d'habitude, donc au ciel. Et donc on a un homme parfait qui nous représente dans toutes nos faiblesses, auprès de son Père. Donc, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, l'enseignement biblique est net. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a ouvert l'accès au trône de la grâce à tout croyant. Ce n'est pas une classe spéciale de prêtre, de moine, de pasteur, autre chose. Accès au trône de la grâce pour tout croyant. Il n'y a aucune intermédiaire, sinon Jésus lui-même. Il n'y a pas des anges, il n'y a pas des saints, il n'y a pas je ne sais pas quoi, il n'y a rien. Le christianisme du Nouveau Testament n'a aucune place pour les prêtres, les saints, les anges, les bougies, l'eau sacrée. Rien ne nous aide à nous approcher de Dieu car Jésus a déjà tout fait et Jésus est tout. Ainsi, tous les chrétiens sont égaux devant Dieu, ayant le même accès à Dieu. C'est très important, ce principe. On peut tous aller parler à Dieu pour tous les soucis qui nous inquiètent ou qui concernent nos voisins, etc. Eh bien, ça veut dire aussi que chaque croyant est compétent. Compétent dans les affaires de la religion. Puisqu'on a accès direct à Dieu par Jésus-Christ, chaque personne, chaque croyant est responsable de son état et de ses actions vis-à-vis de Dieu. Cette prise en charge spirituelle est une nécessité absolue pour la vie quotidienne des chrétiens. Donc, le P signifie la prêtrise de tous les chrétiens. Elle, c'est pour liberté de l'âme. Donc, je vais lire Romains chapitre 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Accès direct. Responsabilité directe et individuelle. Puis, Apocalypse chapitre 22, verset 17, la seconde partie. Et que celui qui a soif, vienne. Donc, ce n'est pas celui que vous les poussez, que vous les contraignez. Non, c'est celui qui a soif, lui, qui vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie. Et c'est gratuit, il dit gratuitement. Par liberté de l'âme, nous reconnaissons trois choses. Donc, la liberté de conscience. Chacun a le droit de croire ce qu'il pense être la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais on a le droit à croire ce qu'on veut croire. Aussi, on veut dire la liberté religieuse. Et par cela, on veut dire que chacun a le droit de pratiquer sa religion, tout en ayant le respect pour les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ont plus raison que vous. Mais qu'ils ont le droit à faire leur façon de vivre leur religion autant que nous avons notre droit à vivre notre façon de religion. Et puis aussi la nécessité libre, laïque et indépendante des religions et des philosophies vis-à-vis de l'État, dans les deux sens. Okay? On a ces principes. Pourquoi? Ces principes protège contre la persécution. Quand un État est lié à une philosophie ou à une religion, eh bien, les non-conformistes sont persécutés. C'est l'histoire de l'humanité. Okay? Donc, ces principes protègent contre la persécution, la répression et la compulsion, l'obligation. Personne n'a le droit de contraindre une autre personne d'agir contre sa conscience. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. Contraindre les gens à agir contre leur conscience. On a perdu les pédales dans notre laïcité. par amour, nous devons respecter les différences des autres, sans pour autant prétendre que tout le monde ait raison. Ça serait mentir. On ne peut pas mentir. Mais on voit que chacun a le droit de s'exprimer ou de croire comme il pense correct, sans faire du mal aux autres, bien sûr. C'est pour cela que Jésus a conçu l'exclusion comme l'unique forme de discipline permise à l'Église. Pourtant, cette exclusion ne peut se faire qu'après plusieurs efforts de raisonner aimablement avec la personne en question. Si la personne montre sa volonté de rompre avec la communauté, qu'elle aille, sa volonté. La personne est libre de partir et libre de revenir si elle repense sur le sujet. Jésus n'a jamais autorisé les tortures, les bûches, les lapidations, les prisons ecclésiastiques, l'humiliation publique, compte implémenter les églises catholiques et protestantes et orthodoxes. Ces pratiques odieuses montrent que ces églises agissent selon la nature humaine. Les chrétiens de foi baptiste ont en horreur la contrainte et la persécution. Jésus nous enseigne à aimer et à respecter. Soumis à l'ordre du Seigneur Jésus, les églises de foi baptiste ne pratiquent que l'exclusion, ce qui est une discipline passive. Donc le L signifie liberté de l'âme. Donc, je veux noter quand même l'importance ou même la nécessité de la responsabilité individuelle pour l'autonomie de l'Église, pour la prêtrise universelle et pour la liberté de l'âme. Nous devons être responsables pour nos choix. Okay? Dieu a fait l'Église comme un corps. Chaque croyant a sa fonction dans le corps. Chaque chrétien, comme je veux dire, quand un chrétien s'abstient de manifester sa fonction, donc c'est sa part dans l'Église, eh bien ça handicape l'Église. Dieu veut qu'on participe. Dieu veut qu'on participe de bonne volonté, de notre plein gré, mais il faut que ça vienne de nous, que chacun participe selon les dons que Dieu lui a donnés. Après, il y a la lettre I, donc pour les deux ordonnances, immersion et la scène ou le repas du Seigneur. Donc les ordonnances sont des actes symboliques que les chrétiens doivent observer. Jésus a commandé de faire des disciples en les baptisant. Donc Jésus l'a commandé, ça veut dire que nous devons le faire. Et concernant le repas, Jésus a commandé, prenez, mangez, buvez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Ce sont toutes des commandes. Le baptême est le moyen prévu par les Écritures pour le nouveau converti de déclarer sa nouvelle foi en Christ. Et le repas sert à plusieurs objectifs pour les croyants. Premièrement, le repas nous oblige de passer en revue notre vie, de reconnaître nos péchés et de demander pardon et peut-être régler les problèmes de relation avec les autres frères et sœurs. Puis le repas nous rappelle le prix de notre pardon, la crucifixion du Seigneur. Et enfin, le repas rend visible notre communion en Christ dans l'Évangile. Mais c'est tout. Il n'y a aucun effet magique au repas du Seigneur, ni au baptême. Le repas n'est pas un sacrement qui enlève le péché, le baptême non plus. Il n'existe aucun sacrement dans le Nouveau Testament. Au contraire, la parole de Dieu dit que tous nos péchés ont été enlevés par le Seigneur sur la croix. il n'y a aucun purgatoire non plus. Le mot purgatoire signifie un endroit pour purger le péché. Le seul purgatoire, si on veut utiliser le mot, le seul purgatoire, c'est la croix du calvaire. La parole de Dieu dit nettement que le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous purge, nous purifie de tout péché et que le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il y a des églises, malheureusement, qui prétendent faussement que l'abstention du repas, de la scène, du repas du Seigneur, entraîne l'abstention. Si vous ratez un dimanche, ça entraîne la perte du salut. Vous n'êtes plus sauvé. De tels propos sont des manipulations religieuses des responsables. C'est des mensonges. Pendant le Moyen-Âge, le pape utilisait ce même chantage pour faire plier rois et royaumes en prétendant les exclure du paradis s'ils n'obéissaient pas à ses ordres. Jésus a clairement dit que rien ni personne ne peut arracher le croyant des mains protectrices du Père et de son Fils. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, on lit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, pourquoi les ordonnances? Pour nous rappeler le prix que Jésus a payé pour nous sauver de nos péchés. Donc, le « i » signifie les deux ordonnances, immersion et repas du Seigneur. Et enfin, le « s ». « S » pour séparation. « Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. » Saint, saint, saint est le Seigneur. Le mot séparation invoque premièrement la sainteté de Dieu et par la suite le pèlerinage du croyant. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous séjournons ici-bas en attendant notre réunion céleste auprès du Seigneur. C'est pour cela que le croyant fait consciemment une distinction entre lui-même en tant qu'enfant de Dieu et le monde qui l'entoure. Le croyant se sépare de tout ce qui l'empêche de marcher avec Dieu. Par exemple, avant de prendre un travail, le chrétien s'assurera de ne pas travailler le dimanche, car pour le chrétien, le dimanche est réservé pour le culte, le service et la communion fraternelle. Si on s'engage de travailler tous les dimanches, on se coupe de la communauté chrétienne. L'Église aussi maintient cette distinction. Elle ne s'engage pas dans l'Église en tant que dans le sens d'une association, un groupe de chrétiens, elle ne s'engage pas dans les pratiques malsaines ou douteuses. Je me souviens, il y avait une mission aux États-Unis qui s'est engagée dans les investissements, je ne sais pas quoi, mais quand il y a eu une perte dans l'économie, tout l'argent de cette mission est disparu et les missionnaires à travers le monde, dans ce groupe-là, étaient sans argent. C'était pas bien. Ils se sont engagés dans une chose malsaine. L'Église ne s'attache pas au monde matériel, au pouvoir ou ni aux richesses. Tout en exerçant une voie morale, l'Église se garde de se lier avec le gouvernement et la politique. Jésus a bien fait la distinction entre Église et État quand il a dit « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, le S signifie la séparation. La simplicité originale du christianisme est obscurcie d'un côté par les siècles d'innovation et de l'autre côté par l'apostasie de nos jours, créant des traditions et des pratiques bien loin des intentions du Seigneur Jésus. Il y a aujourd'hui beaucoup de confusion. Pour retrouver le christianisme pur et simple du Nouveau Testament, il faut enlever l'incrédulité moderne et toutes ces traditions endurcies par les siècles. Ce qui restera, c'est le christianisme biblique, une fraternité non structurée ayant une foi et une pratique baptiste. La parole de Dieu est notre seule autorité pour la foi et sa pratique. Chaque église locale se compose uniquement de personnes nées de nouveau, baptisées par immersion. Elle est souveraine dans toutes ses décisions, gérées par les valeurs démocratiques. Elle est donc indépendante et autonome, tout en restant soumise à la parole de Dieu. C'est sous cette même autorité que ses membres rompent le pain et distribuent la coupe. Chaque croyant s'efforce de vivre une vie pieuse en appliquant les grands commandements, aimer Dieu, aimez-vous les uns les autres, aimez ton prochain. Alors j'espère que cette méditation vous a été utile.